Deutsche Welle. Droits et libertés.
En 1984, ce territoire devient colonie espagnole. En 1975, les colons européens s'en vont et l'Espagne cède ses terres à la Mauritanie au sud et au Maroc au nord. Une guerre éclate alors avec le Front Polisario, mouvement indépendantiste local créé en 1973. Et aujourd'hui encore, en 2018, ce mouvement continue de réclamer l'indépendance du Sahara occidental. Le Maroc, lui, considère que la zone fait partie intégrante de son territoire. Il en contrôle environ 80% et il désigne la région sous l'appellation de province du Sud. Nous parlons de la situation complexe dans cette région non autonome, d'après l'ONU, au statut particulier, avec Sébastien Boulet, enseignant à l'Université Paris-Descartes. Au micro, Sandrine Blanchard. Bonjour à tous.
Sébastien Boulet, je suis maître de conférence à l'Université Paris-Descartes et membre de l'Observatoire universitaire international du Sahara occidental.
Vous avez participé à une mission d'observateurs internationaux et en cette qualité assisté au procès en appel d'un groupe de 15 étudiants sahraouis, les compagnons d'El Ouali. Ils étaient accusés d'homicide, c'était à la mi-février. Qui sont ces jeunes et pourquoi est-ce qu'ils se sont retrouvés devant la justice marocaine ?
Ce sont des jeunes étudiants sahraouis donc, qui suivent des études au Maroc, à Marrakech. Ils ont été arrêtés suite à des manifestations au départ pacifiques contre des violences qui avaient été perpétrées contre un de leurs amis sahraouis en décembre 2016. Violences qui n'avaient donné lieu à aucune poursuite et à aucune enquête dans une manifestation donc le 23 janvier, dans laquelle sont venus se mêler des civils marocains, qui n'étaient pas des étudiants d'ailleurs. Ça s'est transformé en bagarre et donc un civil marocain aurait trouvé la mort le lendemain de cette manifestation. Et c'est sur cette base que ces 15 étudiants sont accusés d'homicide. Ils ont d'abord été accusés d'homicide volontaire. Puis, lors de leur procès en juillet 2017, cette accusation a été transformée en accusation d'homicide involontaire, ce qui les expose quand même à des peines de 2 à 20 ans de prison.
Et dans votre rapport, vous faites état de mauvais traitements de ces jeunes gens, même de tortures qu'ils auraient subies. Ce ne serait pas la première fois que le Maroc est accusé de torture. En novembre 2016, déjà, le comité de l'ONU contre la torture avait condamné le Maroc pour des faits similaires dans un procès qui avait fait pas mal de bruit, qui était celui de Gdeim Izik.
Classiquement, on fait signer des aveux à ces personnes sous les coups ou sous la torture ou sous des menaces diverses. Les premiers 11 étudiants qui ont été arrêtés, eux disent qu'ils ont été torturés pendant 18 jours et qu'effectivement, on les a forcés à signer des PV ou des minutes de la police qui servent ensuite à la justice marocaine à prouver la culpabilité de ces accusés. Donc c'est exactement ce qui a été fait pour les prisonniers de Gdeim Izik, effectivement, qui sont aujourd'hui encore 19 dans les geôles marocaines et qui sont emprisonnés depuis 7 ans et qui ont pour certains été condamnés à la perpétuité ou à des peines de 30, 25 ou 20 ans de prison.
Dans votre rapport, vous dites également que la situation en général des étudiants sahraouis est compliquée au Maroc, d'abord parce qu'il n'y a pas d'université au Sahara occidental et que donc ils sont obligés d'aller soit dans le sud marocain, soit même plus au nord selon les matières qu'ils veulent étudier et que là en plus leur admission, leur inscription est difficile.
À la fois on leur permet d'aller faire des études supérieures, et à la fois, on les cantonne dans les universités publiques du sud du pays. Et on les cantonne également dans des filières, dans des cursus universitaires qui sont des filières assez générales et pour lesquelles les débouchés professionnels sont souvent assez difficile, sachant que certaines filières leur sont complètement fermées. Des filières de pointe, évidemment, ou des filières qui impliquent des problématiques de sûreté de l'État, etc., comme l'aéronautique ou d'autres filières de pointe.
Ils subissent des discriminations à l'embauche.
Effectivement, la politique marocaine consiste à encourager des étudiants, des cadres, des compétences du Maroc donc historique, à venir s'installer au Sahara occidental avec un certain nombre de facilités de logement, des facilités des primes, des salaires supérieurs
qu'ils
pourraient toucher au Maroc.
Ça s'assimile presque à une colonie de peuplement dans un territoire qui n'est pas reconnu comme étant marocain par les Nations Unies.
C'est une stratégie très claire de transformation de la donne démographique du Sahara occidental, puisque dans la partie sous contrôle marocain, les Sahraouis sont déjà minoritaires. C'est un mouvement qui s'est opéré surtout après le cessez-le-feu de 1991 qui devait conduire à l'organisation d'un référendum d'autodétermination qui n'a toujours pas eu lieu.
On a un nouvel envoyé spécial de l'ONU depuis l'année dernière, l'ancien président allemand Horst Köhler. Christopher Ross, qui occupait cette fonction avant, avait été critiqué, accusé d'être partisan par le Maroc. Est-ce que là, avec un nouveau médiateur, il y a des chances de relancer, selon vous, les pourparlers et d'organiser un jour ce référendum attendu depuis 25 ans maintenant, plus de 25 ans?
Il faut l'espérer. L'autre issue serait que le Maroc déclare unilatéralement l'octroi de l'indépendance au Sahara occidental, pourquoi pas. Mais en même temps, les lignes juridiques du conflit bougent pas mal en ce moment, notamment après l'arrêt de la Cour de justice européenne sur l'exportation des ressources naturelles agricoles et halieutiques
ouais.
Du Sahara occidental.
À part en cas de forte pression de ses partenaires européens et notamment la France, qui est le premier investisseur étranger au Maroc, le Royaume n'a pas tellement d'intérêt à accorder son indépendance au Sahara occidental. Il y a des enjeux économiques énormes, il y a du phosphate, il y a le gros de l'agriculture et des exportations marocaines qui sont en provenance de cette zone.
Tout à fait. Après, il y a le droit international. Si le Maroc, comme il l'entend, souhaite être un bon élève et respecter le droit international, eh bien, c'est la seule issue possible. Après, on peut imaginer également une décolonisation du Sahara occidental par le Maroc avec, pourquoi pas, des contreparties économiques pendant un certain nombre d'années. Je pense qu'il y a plusieurs pistes qui sont possibles et qui doivent être discutées par les partis.
On connaît essentiellement comme formation politique le Front Polisario, qui depuis sa création en 73, je crois, réclame l'indépendance du Sahara occidental. Quelle est la place du Front Polisario au sein de la population sahraoui? Est-ce que c'est la seule voix qu'on entend, mais qu'il y en a d'autres?
C'est le mouvement derrière lequel beaucoup de Sahraouis, une majorité de Sahraouis s'inscrivent, puisque c'est ce mouvement qui est reconnu également à l'échelle internationale, notamment par l'organisation de l'Unité africaine. Il y a des élections au sein du Front Polisario, il y a des congrès régulièrement, il y a des élections dans les camps de réfugiés de Tindouf, où vous savez qu'une république arabe sahraoui est née en 1976. Et donc il y a des contestations, il y a des dissidences, mais néanmoins ce mouvement reste un petit peu la boussole, si je puis dire, de la population sahraoui.
Comment vit-elle cette population sahraoui dans les 20% du territoire qui sont sous contrôle du Front Polisario?
Alors, on a une grosse partie de la population, soit à peu près entre 120 et 150 000 personnes qui vivent dans des camps de réfugiés depuis plus de 40 ans, en territoire algérien. Et on a donc ces 20% du territoire du Sahara occidental que vous évoquez. Effectivement, essentiellement, on a quelques bases militaires de l'armée de libération sahraoui, plus des familles qui vivent, des familles d'éleveurs, hein, surtout qui vivent dans cette région de... Mais avec un mur, hein, ça on n'en parle peut-être pas assez. Hein,
oui, mur, c'est un des murs oubliés.
Tout à fait, un des murs oubliés physique. De la planète. Hein, 2700 km de murs, beaucoup de mines, beaucoup de militaires côté marocain. On parle de 100 000 militaires, hein, c'est un chiffre à vérifier évidemment, du côté marocain. Qui empêche toute circulation. Qui plus est dans une région à fort tradition pastorale et nomade. Il y a une partie des familles qui sont restées dans la zone sous contrôle marocain aujourd'hui, une autre partie qui est partie dans les camps. Et on a, au sein même d'une famille, on peut avoir des fractures comme ça, avec le père qui est resté d'un côté, la mère qui est partie avec ses enfants, etc. Donc c'est une vraie tragédie humaine, pour un très grand nombre de familles sahraouies. Anna,
Anna sahraouia. C'est la fin de ce magazine. Merci à Sébastien Boulet pour cet entretien. Écrivez-nous à français@dw.com. Salut et à la semaine prochaine. ساقي العدا كمل مره